Bienvenue sur les podcasts de Profession Banlieue, le centre de ressources de la politique de la ville de la Seine-Saint-Denis qui accompagne les professionnels et les acteurs du territoire depuis plus de 20 ans. Vous pouvez retrouver l'ensemble de nos actualités, agendas, publications et podcasts sur notre site internet professionbanlieue.org. Dans cet épisode, nous revenons sur l'intervention de Simon Renet, géographe et urbaniste et grand connaisseur de la Seine-Saint-Denis, à qui nous avions demandé lors de notre dernière assemblée générale de nous apporter son regard sur la Seine-Saint-Denis entre permanence et mutation.
Je vais simplement vous indiquer, disons, comme on dit aujourd'hui, d'où je parle. Donc, comme vous l'avez dit, je suis géographe urbaniste. J'ai surtout eu la responsabilité de diriger un bureau d'études, le bureau d'études Orgeco, qui a contribué à un grand nombre des dossiers des SQ, HVS et toute la suite partout en France, particulièrement en Seine-Saint-Denis, et notamment, puisque Sylvie Arburger est avec nous, au premier et seul contrat de ville départemental qui avait été élaboré en 90-92, ce qui montre que dès cette année-là, c'est-à-dire il y a plus de 30 ans, il y avait déjà une approche spécifique sur la Seine-Saint-Denis et une attention particulière de l'État en direction de ce département. Donc c'est à partir, disons, de cette expérience professionnelle que je vais vous donner mon regard, qui va en partie recouper ce qui vient d'être dit, mais peut-être avec une autre approche. D'abord, je commencerai par la question du cadrage politique. La Seine-Saint-Denis est une construction politique, vous le savez. C'est un territoire qui n'a aucune cohérence géographique, qui n'avait pas d'histoire particulièrement commune, qui est encore jusqu'à aujourd'hui composé de l'ex-Seine et un bout de la Seine-et-Oise. Donc, c'est une construction politique et c'est à partir de ce point de vue, je crois qu'il faut comprendre une partie des situations qui sont extrêmement durables et profondes. Donc, la Seine-Saint-Denis, créée en 1965, était un regroupement de communes qui avaient relativement peu d'opération entre elles. Ce qu'il faut, je crois, dire, c'est le bouleversement politique qui est intervenu depuis 50 ans. En 1977, 28 communes sur 40 étaient à direction communiste. Aujourd'hui, il n'en reste plus que 6. Je dis ça, ce n'est pas une histoire partisane, mais c'est pour comprendre ce qu'a été l'histoire, et notamment l'histoire urbaine de ce département, à tous égards particulière. Donc, bouleversement politique, et par ailleurs, partant d'un département qui était particulièrement politisé, qui avait l'ambition, au sens du Conseil général, de réaliser en Seine-Saint-Denis une forme d'utopie et de banlieue moderne, aujourd'hui, il faut considérer le recul de la participation politique et aujourd'hui la Seine-Saint-Denis présente le record de l'abstention. Aux dernières élections présidentielles, 65% des électeurs s'étaient abstenus. Donc on est dans ce paradoxe d'un département construit et longtemps porté sur des bases politiques extrêmement puissantes et qui progressivement a perdu cette identité politique et une forme d'effacement politique qui peut expliquer aussi, sa présence insuffisante à l'échelle métropolitaine, j'y reviendrai. Ensuite, donc, ça vient d'être évoqué, il n'y a pas besoin d'y revenir, la crise sanitaire comme coup de projecteur sur la singularité du département, que ce soit sous l'angle urbain mais surtout sous l'angle des problèmes particuliers de sa population, donc pas besoin d'y revenir. L'autre aspect, la mutation sociologique complète du département, qui n'a pas effacé son caractère populaire, mais a renforcé son caractère jeune et cosmopolite. La Seine-Saint-Denis est un département, vous le savez, qui était à dominante ouvrière et qui, en l'espace de 40 ans, à l'image du reste du pays, mais plus fortement en Seine-Saint-Denis que partout ailleurs, a perdu une large part de son identité ouvrière. Et comme partout, la population s'est transformée avec un apport massif de couches moyennes et de cadres. Donc là aussi, ça a apporté, disons, un coup à l'identité départementale et ça a fortement interpellé les politiques urbaines et notamment les politiques de logement. Donc, profonde mutation sociologique qui s'est accompagnée d'une croissance démographique importante. Le département a gagné 350 000 habitants depuis une quarantaine d'années et gagne encore 15 000 habitants par an, qui pose à la fois des questions d'aménagement urbain, de réponses en termes d'équipement, notamment équipement scolaire, d'interrogations sur la densité, la forme urbaine. En tout cas, un département qui, après avoir décliné, est reparti de plus belle sur le plan démographique et connaît une des croissances démographiques les plus intenses et les plus continues de la métropole parisienne. Donc, ça interpelle beaucoup ce qu'était l'ancienne base sociologique de ce département et ce qu'elle est progressivement devenue après cette transformation. Donc, comme je le dis, le département est resté bien sûr avec une population populaire au sens des revenus, au sens des catégories ouvriers et surtout employées, mais une transformation majeure. Un département devenu beaucoup plus cosmopolite qu'il n'était il y a 30 ou 40 ans, parce qu'il est aujourd'hui l'entrée principale de l'immigration en France et en région parisienne. Et ça percute bien sûr très directement l'identité des quartiers que l'on appelle populaires. Donc on pourra revenir sur les chiffres, mais ça m'apparaît comme une des composantes majeures de la transformation qui recoupe ce qui est devenu progressivement la population des locataires du logement locatif social. Et derrière ça, il y a la question que vous avez certainement abordée, est-ce que la Seine-Saint-Denis est une nasse ou un sas? Est-ce que c'est un simple lieu de passage, un lieu d'accueil, un lieu de promotion sociale avant que les habitants qui le peuvent ne le quittent? Et donc, il y a deux catégories de population, il y a deux manières d'analyser les choses, et la politique de la ville et le devenir des quartiers est très directement interpellé par ce questionnement, puisqu'on a pu constater, vous le constatez sans doute, qu'une grande partie, ou la plus grande partie, des premiers habitants des ensembles HLM sont partis et sont progressivement remplacés par d'autres populations, ce qui en soi n'est pas, disons, un problème ou une difficulté, la difficulté venant du fait que les populations qui arrivent sont toujours plus pauvres, toujours plus étrangères, toujours plus différenciées que la population qui part. Et donc ça pose une question d'équilibre social et de moyens d'accueil, d'intégration, voire d'assimilation pour ces nouvelles populations. Donc vous l'avez évoqué, c'est très clairement évoqué dans le rapport Cornut-Gentil, toutes les études montrent que, disons, le système scolaire de Seine-Saint-Denis n'est pas en mesure de répondre à cette attente, à la fois quantitativement et probablement qualitativement, puisqu'on a affaire à un public scolaire de plus en plus différent, de plus en plus oui, cosmopolite, et qui pose des problèmes spécifiques si, toutefois, et on y reviendra, si on est toujours dans un modèle d'intégration, pour ne pas dire assimilation. Donc derrière ça, il y a un débat sur le multiculturalisme, tout ce que vous devez aborder, probablement. Donc, profonde transformation sociologique et culturelle, pour ne pas dire religieuse. Donc, c'est quand même en Seine-Saint-Denis que ces problèmes sont les plus massifs, les plus visibles et les plus intenses. Donc, par ailleurs, une dynamique résidentielle particulière en Seine-Saint-Denis, puisque une grande partie de la population des anciens grands ensembles sont partis, ont été remplacés par d'autres populations, notamment un grand nombre de familles monoparentales, qui posent évidemment des problèmes tout à fait particuliers en termes de revenus, de modèle familial et de modèle éducatif. Donc ça, c'est pour les dynamiques démographiques. Ensuite, une autre approche de la Seine-Saint-Denis, c'est la très forte marque du productivisme et de l'industrie sur ce territoire. La Seine-Saint-Denis était, dès le 19e siècle, un territoire industriel. Et donc ça s'est traduit dans l'espace par de grandes zones d'activité et par un très grand nombre d'infrastructures ferroviaires, autoroutières, le canal, etc., qui font que le territoire départemental est encore aujourd'hui extrêmement découpé en plaques qui ont du mal à, ou qui communiquent mal entre elles, et qui font que ces quartiers sont, malgré les efforts entrepris, hein, les tramways, les ponts, tout ce qu'on a pu faire, il y a encore de grandes parties du territoire qui sont extrêmement cloisonnées. L'autre particularité du département étant que ces grandes zones, que ces grands moteurs économiques sont à la périphérie du département, c'est-à-dire Pleine Commune, Roissy et disons les communes qui jouxtent Paris, alors que le cœur du département, Bobigny, est une zone de faiblesse. Et donc ça ajoute un petit peu au caractère hétérogène de ce territoire départemental qui n'a pas de centralité et qui est tiré entre des forces, disons, extérieures qui rendent plus délicat, plus difficile, disons, la construction d'une identité départementale solide. Donc, cette marque du productivisme est encore visible aujourd'hui, et elle est une des difficultés dans la reconversion économique, notamment quand il s'agit de réaménager beaucoup de terrains encore ou anciennement pollués. C'est une difficulté complémentaire quand il s'agit de, disons, de réaliser de nouveaux quartiers ou disons, des équipements contemporains. Cette transformation radicale du tissu économique a une autre particularité que l'on trouve nulle part à cette échelle en France. C'est la déconnexion complète entre l'offre d'emploi installée sur le territoire de la Seine-Saint-Denis et l'accès à ces emplois par les actifs qui habitent en Seine-Saint-Denis. Donc vous connaissez les chiffres. Le plus spectaculaire est celui, par exemple, de Pleine Commune. 87% des salaires distribués sur le territoire de Pleine Commune le sont pour des actifs qui n'habitent pas à Pleine Commune. Et il en va de même pour la quasi-totalité du territoire de Seine-Saint-Denis. Donc c'est comme si le département était devenu une plateforme d'emploi, une plateforme de création de richesses. Aujourd'hui, la Seine-Saint-Denis est le troisième département contributeur de TVA en France. C'est-à-dire qu'après un déclin et une chute industrielle catastrophique, économiquement, le département, au sens territoire, a regagné énormément. La difficulté et la particularité, c'est que cette richesse créée disons, ne profite pas principalement aux actifs et aux habitants du département. Donc ça pose la question que vous avez évoquée, on pourrait y revenir, sur les solidarités métropolitaines. Mais en tout cas, on a là vraiment un effet ciseau spectaculaire entre redéveloppement économique sans développement social. Et disons, tous les territoires dont on parle souffrent de cette singularité. Et évidemment, cette difficulté s'accroît à mesure que les emplois qui arrivent en Seine-Saint-Denis sont de plus en plus qualifiés, alors que la population, et la population notamment étrangère venue, disons, plus ou moins récemment, évidemment n'a pas les qualifications pour ces emplois. Et donc, on tombe dans l'autre particularité de la Seine-Saint-Denis, que la crise du Covid a particulièrement bien illustré. La Seine-Saint-Denis est de tous les départements celui qui accueille le plus de premiers de corvée et qui bénéficie à l'ensemble du reste de la métropole parisienne, mais disons, ce rôle n'est pas, à mon sens, reconnu. Il devrait l'être, notamment s'agissant de l'accompagnement en équipement, en moyens, en ressources de tous ordres, pour permettre à cette population, disons, de vivre beaucoup mieux. Autre particularité du département, c'est son tissu commercial. La Seine-Saint-Denis a le record en France du nombre de grandes surfaces et d'hypermarchés. et avec une crise particulière du commerce de proximité dans tous les centres-villes. C'est lié à une politique que toutes les collectivités ont menée. À chaque crise industrielle, à chaque départ d'entreprise, souvent, ce sont des centres commerciaux qui ont remplacé les anciennes activités industrielles. Chaque commune étant à la recherche de ressources fiscales et de création d'emplois. Et donc, on a à la fois un grand nombre de, disons, d'hyper, de grandes surfaces, de grands pôles commerciaux et dépérissement des centres-villes. Et l'autre particularité du point de vue de la sociologie, c'est qu'aujourd'hui, les pôles de centralité, les pôles de sociabilité dans le département, ce ne sont pas. Disons les centres-villes traditionnels, ce sont les grands pôles, les grandes surfaces, quoi. Donc, je pense à le Millénaire, la Basilique, Aéroville, Rosny 2, etc. Donc, on a là aussi une déconnexion entre les, disons, une vision traditionnelle des communes, chacune avec leur centre-ville, et en réalité des polarités attractives qui sont totalement. On pourrait presque dire hors sol et en tout cas intercommunal, sans le dire, sans compter, s'agissant de ce sujet-là, l'attractivité particulière de Paris et notamment des Halles, où convergent tous les RER, où on voit tous les jours en s'y promenant la population des banlieues totalement étrangère à la population parisienne ordinaire. Donc, c'est un sujet particulier, puisque notamment les objectifs de la ville, vous le savez, a été ou était de reconquérir des petits commerces de proximité dans les quartiers. Or, évidemment, du coup, il y a une espèce de différent, comment dire, on a deux types de commerces, on a les grandes surfaces, les grands pôles économiques, et on a les petits commerces de proximité, plus ou moins ethniques, plus ou moins bas de gamme, dans ce qui reste du territoire départemental. Alors j'arrive maintenant au cœur de votre sujet, l'offre d'habitat et la politique de la ville. Donc d'abord la politique de la ville en Seine-Saint-Denis, vous le savez, ce n'est pas une nouveauté, il y a 40 ans que ça dure. Moi j'ai fait les premiers dossiers HVS et DSQ à la Courneuve. Ensuite on a fait tous les dossiers du contrat territorial de Saint-Denis, d'Aubervilliers, puis de Pleine-Commune. J'ai travaillé sur Villepinte, Sevran. Donc, c'est une histoire ancienne. Donc, on ne peut pas dire, disons, que l'État ou que les autorités n'aient pas vu la question posée. Mais on a affaire, vous le savez mieux que moi, en Seine-Saint-Denis, à un effet de masse que l'on retrouve nulle part ailleurs en France. Puisque, moi, je ne vais pas vous redonner les chiffres, vous les connaissez, mais par l'ampleur des quartiers physiquement et par l'ampleur des populations concernées, on a un sujet tout à fait particulier. Ça percute évidemment directement ce qui était un des objectifs de la politique de la ville et qui est devenu beaucoup plus évident depuis 2003 avec l'objectif de l'ANRU, c'est-à-dire l'ambition au travers de la requalification urbaine de redonner à ces quartiers une attractivité telle que d'autres populations accepterait de venir y habiter. Donc on peut dire que c'est relativement raté au plan national, mais encore plus évidemment en Seine-Saint-Denis. Puisqu'en Seine-Saint-Denis, personne ne peut contester le fait que physiquement des choses considérables ont été réalisées. Ainsi, on prend les 4 000 de la Courneuve, c'est là où c'est le plus évident, puisque sur les 4 000, il reste que 300 logements de l'origine. Donc, ce quartier, comme d'autres, ont été massivement reconstruits. C'est en Seine-Saint-Denis que le plus de logements ont été démolis et reconstruits, mais c'est aussi en Seine-Saint-Denis que le moins de logements reconstruits l'ont été à l'extérieur des périmètres politiques de la ville, pour une raison évidente, c'est que la quasi-totalité des territoires communaux sont en politique de la ville. Donc, j'ai passé mon temps à négocier avec les préfets successifs, à obtenir des dérogations sur toutes sortes de dispositifs inadaptés à la Seine-Saint-Denis. Donc, on peut se réjouir, je pense, de la requalification de l'offre d'habitat en termes de confort, d'accessibilité, d'amélioration de tous ordres. Maintenant, alors je ne sais pas vous ce que vous, où vous en êtes sur le plan, disons, politique et idéologique. Par contre, on peut regretter ou constater que l'objectif de mixité ou de diversification sociale n'a pas été atteint. Alors, je ne sais pas ce que les uns et les autres vous pensez de cet objectif, mais c'était l'objectif sous-jacent et officiel, au moins depuis 2003. Donc, sur ce sujet-là, les différents maires ont des approches différentes, les différents bailleurs aussi, mais en tout cas, il faut constater cette particularité sur la Seine-Saint-Denis. L'autre sujet qu'il faut aborder, parce que je pense, j'en ai beaucoup discuté avec Sylvie Arburger notamment, lorsque nous avons entrepris au départ les grands projets de politique de la ville, on raisonnait les quartiers sans doute sans prendre suffisamment en compte la question du marché immobilier et de la concurrence entre les offres immobilières, entre les différentes communes et entre les différents territoires qui composent la métropole parisienne. Donc, on a pu constater, notamment, que beaucoup de locataires du parc social, lorsqu'ils souhaitaient accéder à la propriété, n'ont pas pu le faire en Seine-Saint-Denis, parce que, pour des raisons de choix politiques, beaucoup de maires, jusque dans les années 90 et bien au-delà, ne faisaient pas accession à la propriété. Donc, une partie de la mutation sociologique a été, à mon sens, accélérée par ces choix politiques qui ont, disons, privilégié le parc locatif social, et ça reste un sujet de discussion, notamment dans les différents PLH que j'ai pu faire en Seine-Saint-Denis, notamment les 4 PLH que j'ai fait pour pleine commune. À chaque fois, la question de la place et de la proportion de logements sociaux par rapport à d'autres formes d'offres immobilières est posée, avec bien sûr le souci tout à fait légitime des élus d'éviter la gentrification et l'expulsion ou l'exclusion des populations déjà installées. Mais vous voyez bien que ça pose un sujet, puisque la Seine-Saint-Denis, j'y viendrai après, ne peut pas être pensée ou raisonnée comme un isolat, comme un îlot hors métropole parisienne. Et l'autre chose que je pense on n'avait pas anticipé dans les années 90, c'est l'ampleur des mouvements migratoires et du flux de l'immigration. Certes, cette question était posée. Je sais très bien que dans les années 80, par exemple, les élus communistes avaient fait des déclarations officielles pour souligner, pour regretter, pour en tout cas poser la question de l'immigration au sens de la nécessité qu'elle soit, disons, mieux répartie. Évidemment, ce sujet n'a pas été abordé, c'est resté un sujet relativement tabou et, vous le savez, extrêmement épineux sur le plan politique. Mais en tout cas, aujourd'hui, dans certaines communes, plus de la moitié des nouveaux arrivants au cours des 10 dernières années sont d'origine étrangère. Et donc, ça pose une question particulière, notamment s'agissant des enfants dans les écoles. Toutes les communes sont confrontées, et l'éducation nationale aussi, à cette question particulière. Comment enseigner quand on a affaire à des populations, à des enfants ou à des jeunes venus de partout, et alors qu'on continue d'avoir en Seine-Saint-Denis des moyens insuffisants sur le plan de l'éducation pour faire face à cette nouvelle population qui entend telle pose des questions nouvelles en termes éducatifs. Donc là-dessus, vous savez qu'il y a plusieurs, il y a eu plusieurs tentatives, il y a eu plusieurs successifs qui apportent des moyens certes insuffisants, mais le rapport Cornu-Gentil, par exemple, souligne à quel point, sur ce plan-là comme sur d'autres, les fonctionnaires, les gens de la fonction publique en Seine-Saint-Denis sont en général ceux qui commencent, les gens qui sont en début de carrière. Ça vaut pour les enseignants, pour la police, pour pratiquement tous les emplois de la fonction publique. Donc les gens les moins expérimentés, les moins payés, les moins préparés à, disons, se coltiner des questions compliquées auxquelles on ne les a pas préparées et pour lesquelles ils ne sont pas suffisamment, à mon sens, aidés. Mais en tout cas, je pense que on ne peut pas faire l'impasse sur cette question sans aborder, parce que c'est trop polémique, ce qui a été évoqué tout à l'heure, les questions de laïcité, de séparatisme, qui posent des questions nouvelles et qui sont sans doute un obstacle supplémentaire par rapport à l'ambition de diversité, de mixité sociale. Je sais que c'est un sujet épineux, on pourra peut-être en discuter, mais il donne cette couleur particulière au 93, qu'évidemment la presse et que les, disons, la télé relaient de manière systématique et spectaculaire, mais qui s'impose, en tout cas, quand on se promène ou quand on va professionnellement dans beaucoup de ces quartiers, ce sujet ne peut pas être, disons, esquivé. Donc, la politique de la ville en Seine-Saint-Denis, de ce point de vue-là, disons, par son ampleur, par les difficultés particulières qu'elle rencontre, évidemment, c'est presque devenu le symbole des échecs, des réussites, des difficultés particulières de la politique de la ville. Hein, c'est pour ça que j'ai parlé au début du contrat de ville départemental, puisque dès les années 90, on avait déjà compris, on avait déjà mesuré que par l'ampleur de la question, on ne pouvait pas raisonner les quartiers, disons, de manière isolée les uns des autres. Donc, enfin, autre point, l'offre d'habitat. Donc, à côté de la politique de la ville et des questions qui se posent sur le devenir des cités et du parc social, la Seine-Saint-Denis a bénéficié d'une forte croissance démographique liée à une intense politique de construction. Donc, ça touche évidemment tous les quartiers, ça touche toutes les communes, puisque, comme je vous le disais, en Seine-Saint-Denis, plus qu'ailleurs, il y avait du foncier disponible après le départ des industries. Donc, ça explique en partie qu'on ait beaucoup construit en Seine-Saint-Denis. C'est lié aussi, notamment pour les communes qui touchent Paris, à le débordement de la dynamique de Paris intramuros vers les communes proches, et avec ponctuellement, évidemment, un mouvement de gentrification lié à l'augmentation des prix, donc je pense à Saint-Ouen, Montreuil, Lillas, le Pré-Saint-Gervais, et puis ponctuellement, un peu plus profondément en Seine-Saint-Denis, mais à mes yeux, ça reste ponctuel, et ça n'est pas encore un mouvement de fond, et loin de là, qui va emporter disons, le caractère social du département, qui est notamment fortement solidifié par l'ampleur du parc social. C'est plus de 33%, en gros le tiers de l'offre d'habitat en Seine-Saint-Denis, ce sont des logements sociaux. C'est justement l'héritage de ce qu'a été la politique des municipalités communistes, renforcée par la politique de l'État, qui après-guerre, disons, a bénéficié de ces grandes emprises foncières pour réaliser les grands ensembles sous la forme des ZUP. Donc il y a eu un accompagnement entre politique publique nationale et politique locale pour construire massivement des logements sociaux, et notamment sous la forme des cités, qui à l'époque étaient perçues comme un progrès considérable en termes d'offres d'habitat et de confort. Donc l'image qu'on en a aujourd'hui n'est pas du tout celle qu'elle avait. Et ça explique aussi ce basculement entre ce qui était, disons, l'emblème de la modernité et du confort et ce qui aujourd'hui apparaît au contraire comme un signe de paupérisation et de disqualification sociale. Donc là, il y a un renversement complet qui traverse complètement la politique de la ville et qui explique en partie, sans doute, certaines des impasses que nous constatons aujourd'hui. Alors, je terminerai sur deux points. Quel avenir pour le département, hein, puisque vous êtes une association de niveau départemental? Donc, la question du département de la Seine-Saint-Denis est posée, puisque on peut constater qu'en tant que tel, le Conseil général de Seine-Saint-Denis n'a pas ou n'a plus les moyens de faire face aux problèmes qui se posent en Seine-Saint-Denis, puisque plus qu'ailleurs, Les dépenses sociales, les dépenses éducatives, les dépenses d'aide de tous ordres sont exponentielles et que les moyens, les ressources du département ne peuvent pas faire face. Le meilleur signe en étant que le département a demandé la renationalisation du RSA, qui est, disons, presque la preuve, la négation, disons, presque de l'institution, puisque le Conseil général en tant que tel, une de ses grandes fonctions, ce sont les redistributions et l'aide sociale. Donc ça pose, ça a été dit tout à l'heure, clairement, la question de la solidarité de la métropole. Alors de ce point de vue-là, professionnellement, moi je travaille depuis plus de 20 ans aux côtés de Pierre Mansart et à ses successeurs sur la question de la métropole. Force est de constater que c'est aujourd'hui un échec complet. C'est tout sauf une métropole, et surtout, c'est tout sauf une métropole solidaire. Il n'y a pas d'aide et de solidarité suffisante si on prend en compte ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire les richesses fiscales que le département apporte à la métropole, le travail que les salariés qui habitent en Seine-Saint-Denis font ailleurs dans la métropole, et notamment tous les emplois qu'on a vus spectaculairement mis en œuvre au moment de la crise du Covid. Et donc la question du département est posée. Enfin, vous ne savez pas que quand Claude Bartolone était président du Conseil général, il avait proposé en 2013-2014 la suppression du département et son intégration dans la métropole. Pour des raisons politiques, ce point de vue n'est plus aujourd'hui officiellement d'actualité, mais de toute façon, la question se posera pour la Seine-Saint-Denis, comme pour les Hauts-de-Seine et comme pour le Val-de-Marne, puisque la question d'une simplification de la carte administrative se pose, d'autant plus qu'en Seine-Saint-Denis comme ailleurs, on a maintenant la montée en puissance des EPT. Donc, comment peut-on, disons, concilier le maintien de communes, dont certaines, en Seine-Saint-Denis comme ailleurs, sont des communes, des villes puissantes, avec une forte identité, avec une forte volonté, des EPT, dont l'objectif est de se renforcer. Et il se trouve qu'en Seine-Saint-Denis, on a deux EPT, pleine commune et Est Ensemble, qui sont parmi les plus anciens et ceux qui sont réputés être ceux disons, qui fonctionnent le plus. Donc on a quatre EPT, on a le département, on a la région, on a l'État. Et s'agissant de la Seine-Saint-Denis, on a même l'intervention des fonds européens. Donc on a quand même affaire à quelque chose de totalement incompréhensible pour les citoyens. Donc ça renvoie à ce que je disais tout à l'heure sur les questions politiques et d'abstention, et en tout cas une vraie interpellation s'agissant d'un autre moyen de répartir les ressources et les moyens au bénéfice de la Seine-Saint-Denis. Donc l'avenir pour le département, et puis l'autre, ça a été abordé rapidement, c'est comment anticiper l'impact de tous les grands projets en cours ou à venir qui vont bouleverser encore un peu plus la géographie du département. Donc, en Seine-Saint-Denis, il va y avoir 18 gares du Grand Paris Express qui ont pour principale finalité de permettre aux salariés d'aller plus vite vers les pôles d'emploi, notamment ceux qui sont situés à l'ouest de Paris. L'autre aspect étant que ça s'est pensé comme étant des leviers de redéveloppement urbain. Donc, ça, bien sûr, ça peut avoir bien des avantages. Évidemment, la question qui se pose et qu'on commence à constater, c'est qu'évidemment, les constructions autour de ces gares sont financièrement hors de portée pour le plus grand nombre des demandeurs de logement de Seine-Saint-Denis. Donc, on a un vrai sujet là aussi sur diversité, mixité, gentrification, redéveloppement. La même question se trouvant posée par la prolongation de la ligne 11, qui va avoir 6 stations dans le département. Donc, ça va certainement avoir pour effet d'accélérer l'intégration du département dans la métropole, avec évidemment ce que je disais avant, c'est-à-dire l'interrogation institutionnelle, comment maintenir des institutions formelles quand dans les modes de vie et quand dans le marché du logement et dans la vie quotidienne, en réalité, on a déjà des démarches métropolitaines totalement intégrées. Donc, et puis l'autre, dans les grands projets, il y a aussi évidemment l'impact espéré, attendu ou redouté des Jeux olympiques, avec évidemment l'accélération de la transformation des territoires autour du village olympique, les polémiques autour du parc de la Courneuve. Moi, j'étais dans une des équipes qui devait travailler sur le village de la presse, etc. Donc, à chaque fois, on a constaté cette contradiction entre volonté de requalifier, d'aménager, d'améliorer, et la crainte que ces aménagements ne conduisent à une augmentation des prix du foncier et à une exclusion des populations. Et on est toujours pris entre cette contradiction, intervenir, améliorer, réaménager, et crainte que ça se fasse au détriment des populations déjà installées en Seine-Saint-Denis. Donc, entre permanence et mutation, je pense qu'on est vraiment sur l'effet ciseau de ces deux vocables. La permanence, c'est le maintien, disons, d'abord d'une sociologie populaire. Avant, on aurait dit ouvrière, aujourd'hui on dit populaire, c'est beaucoup plus flou, mais en tout cas, la Seine-Saint-Denis reste de toute évidence le territoire le plus pauvre de France si on prend la population. Donc ça n'a pas changé. Le territoire était déjà bien être un département, la partie ouvrière de la région parisienne. Donc ça, c'est, on pourrait dire, permanence. La transformation, elle est en cours, hein. C'est transformation économique, transformation urbaine. Donc on est entre ces deux ambivalences, et l'autre, sur cette même approche, je dirais que la politique menée par le Conseil général, au moins jusqu'à la présidence d'Hervé Bramy, c'est-à-dire de la présidence communiste, était d'isoler la Seine-Saint-Denis de Paris. La volonté était que le département soit en lui-même un modèle, disons, de la préfiguration, disons, d'une société idéale, enfin, en tout cas. Et donc, je ne sais pas si vous vous rappelez des affiches, il y avait la Seine-Saint-Denis n'est pas un fromage, hein, il y avait des petites souris autour d'un gruyère. Et là, c'était vraiment l'affirmation du département en tant que collectivité autonome, indépendante, porteuse d'un projet politique alternatif. Et ensuite, toutes sortes d'hésitations que l'on sent encore aujourd'hui sur l'intégration subie ou volontaire dans une démarche métropolitaine beaucoup plus solidaire et beaucoup plus volontariste. Et je pense qu'aujourd'hui, on en est encore là. Et disons, les prochaines élections départementales et régionales ne trancheront pas ce débat, puisqu'on peut dire malheureusement, ce sujet-là n'est jamais abordé, il ne l'a pas été au moment des élections municipales et il ne le sera pas davantage aux prochaines échéances politiques.
Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à consulter nos actualités sur notre site internet professionbanlieue.org. Vous pouvez également adhérer à Profession Banlieue pour soutenir notre action. À bientôt pour les podcasts de Profession Banlieue.